Un accident de la route coûte la vie à un homme à Saraméa ce dimanche. Il a été conduit au centre de secours mais n'a pas pu être sauvé. Génération NC appelle à mettre en place une majorité de stabilité au gouvernement et au Congrès avec l'UNI pour pouvoir lancer les réformes nécessaires. Le parti de Nicolas Metzdorf dressait les perspectives de 2025 ce matin. La première de l'année pour le marché de Mamie à Farino. Une belle affluence pour ce rendez-vous des amateurs de bons produits sur la côte ouest. L'actualité nationale, François Bayrou prépare une réunion cruciale avec les syndicats agricoles. Le Premier ministre va tenter de désamorcer la crise. Dans le Pacifique, en Australie, des croix gammées ont à nouveau été dessinées sur des synagogues à Sydney. Des enquêtes sont lancées. Le sport du tennis, c'est parti pour le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie qui commence sous la pluie à Melbourne. Et puis le football, un duel entre Paris, le Paris Saint-Germain et Saint-Étienne demain matin. Ce sera en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité, je vous le disais en titre, cet accident survenu aujourd'hui à Saraméa. Le conducteur d'un véhicule qui circulait sur la RP5 a perdu le contrôle et a quitté la chaussée cet après-midi. Quatre personnes étaient à bord. Le passager avant a été éjecté hors de l'habitacle. L'accident s'est produit dans ce qu'on appelle une zone blanche, c'est-à-dire sans réseau téléphonique, afin de pouvoir prévenir dans les plus brefs délais les secours. Les autres personnes à bord de la voiture ont donc dû transporter elles-mêmes la victime, gravement touchée, jusqu'au centre de secours de Lafoy. Arrivé sur place vers 15h40, l'homme est décédé peu de temps après sa prise en charge. Les trois autres passagers légèrement blessés ont été évacués vers le Medipôle. Il s'agit du premier drame survenu sur nos routes depuis le 1er janvier 2025. Sur le front des feux de brousse, une nouvelle intervention des pompiers en raison d'un écobuage mal maîtrisé. 30 hectares de végétation sont partis en fumée hier près de la route de Kemanto à Païta, non loin de la base aéronavale. Un temps maîtrisé, le feu a malheureusement repris cet après-midi. Il est désormais fixé depuis 16 heures. Aucune habitation n'a été menacée. Au chapitre politique, Génération NC s'exprime face à la presse. En ce début d'année, le parti de Nicolas Metzdorf souhaitait faire un point global sur les perspectives que ses élus défendront en 2025 pour le territoire. Tout d'abord, dans l'actualité récente, Génération NC salue l'élection d'Alcide Ponga à la présidence du gouvernement, tout en rappelant que le calendrier va contraindre ce nouvel exécutif à mener des réformes dans un temps très court. Génération NC qui appelle à former une majorité au gouvernement et au Congrès pour stabiliser le fonctionnement des institutions afin de pouvoir travailler sur ces réformes nécessaires après la crise de 2024. Nicolas Metzdorf.
On se félicite de l'élection d'Alcide Ponga à la présidence du gouvernement, mais ça va être une présidence très courte puisque les élections provinciales sont prévues au plus tard en novembre 2025 et qu'il va falloir mener énormément de réformes. Donc on aura besoin de s'asseoir sur une majorité stable et forte à la fois au gouvernement et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et nous, on dit que cette majorité, elle ne peut pas se faire avec l'Union calédonienne. Cette majorité, elle doit se reposer sur l'UNI, qui est un parti politique indépendantiste modéré, qui n'a pas, un, participé aux émeutes du 13 mai, qui les a dénoncées, et deux, qui a travaillé étroitement avec nos membres du gouvernement sur le PS2R, le plan de relance de l'économie calédonienne. Et donc nous, on dit qu'il faut travailler avec eux, plutôt qu'avec l'UC et la CCRT.
Et Génération NC appelle donc à désigner un membre du gouvernement issu de l'UNI comme vice-président de l'exécutif. Dans un tout autre domaine, face à l'impact des événements de 2024 pour la population, Génération NC appelle à élaborer un nouveau modèle pour permettre à la Calédonie de s'en sortir sur le plan économique et social. À court terme, Génération NC le dit, l'assistanat ne sera tout simplement plus possible. Nina Julier, porte-parole de Génération NC.
C'est une urgence dans laquelle nous met la CCAT puisqu'elle a détruit le pays. Elle a détruit notre économie et maintenant nous devons de nous adapter à cette situation malheureusement. Et il va y avoir des conséquences importantes sur la vie des Calédoniens, sur notre système de solidarité, sur donc les aides sociales, sur l'accompagnement des plus fragiles. Et il faut qu'on trouve un système dans lequel nous ne sommes pas les mendiants de l'État. Et nous sommes en capacité de produire de la richesse. Et aujourd'hui, les seuls qui sont capables de produire de la richesse, ce sont nos entreprises. Il faut donc que dans ce modèle, on puisse mettre au centre les entreprises calédoniennes et le travail. Et il s'agit de repenser totalement hein, notre façon de voir les choses. Il faut renverser la table, libérer complètement notre économie pour que ces entreprises puissent de nouveau embaucher et créer du travail et donc de la richesse. Ça va prendre du temps, mais c'est la seule solution qui nous permettra de nouveau financer nos systèmes de solidarité, les aides pour les gens, etc. Il faut que les entreprises bossent.
Et Génération NC présente ses pistes, élaborer un modèle pour redresser la Nouvelle-Calédonie en donnant de meilleures perspectives aux entreprises et aux entrepreneurs, remettre en avant les atouts du territoire, le domaine maritime, la biodiversité, la proximité de voisins tels que l'Australie avec qui des liens pourraient être développés au profit de l'économie du territoire, ou encore le nickel et la question de l'exportation de minerais à basse teneur dont il faut reparler désormais pour sauver à court terme des emplois. Enfin, concernant les discussions sur l'avenir institutionnel, le parti rappelle aussi que les partenaires doivent se remettre au plus vite autour de la table, car le calendrier l'impose, rappelle Nicolas Metzdorf, avec un accord qui doit être trouvé d'ici le 31 mars prochain.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Bouloupari, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Dans le reste de l'actualité, une sortie incontournable pour les broussards. C'était le marché de mamie qui se déroulait à Farino ce matin, le premier de l'année, avec une affluence qui annonce déjà de beaux mois à venir. Charlotte Coulson.
Les flamboyants étaient en fleurs, ils le sont toujours. Il faisait beau, c'était le cadre parfait pour venir se balader à Farino ce matin. Et au marché de mamie, les Calédoniens en ont profité pour faire leur courses. Certains habitent la commune, d'autres viennent d'un peu plus loin, des habitués qui apprécient la diversité des produits locaux qu'ils trouvent sur place.
On s'est levé tôt ce matin pour venir exprès, comme c'est le premier marché de l'année. Donc on venait venir voir ce qu'il y a de nouveautés. Mais c'est surtout que moi je suis à la recherche des produits qui se font rares aussi. Je suis contente de venir au marché de Farino parce que c'est ce qu'on ne trouve pas à nous-mêmes.
Je viens chaque mois ici, je viens parce qu'en fait c'est dans la nature et je viens chiner, voir les produits frais, les produits locaux, des plantes surtout. Et les produits fabriqués localement, quoi.
Oui, nous habitons ici. On vient régulièrement.
Ce que vous aimez dans ce marché ?
La diversité, mais surtout les produits salade de poulpe, là. Les saucissons de cerf, ils sont très bons. La diversité dans les plantes. Puis il est tranquille, ce marché. On aime beaucoup ici.
Et des clients habitués du marché qui retrouvent d'ailleurs souvent les mêmes exposants. Alors pendant longtemps, il y avait Mamie Fogliani, bien sûr, mais il y a aussi les autres mamies, certaines présentes depuis la création du marché. Fidèles au poste, elles vendent les produits qu'elles cuisinent ou qui viennent tout droit de leur champ.
Ça fait très longtemps que j'ai fait le marché de Farino, l'âge de marché de Farino. On est des anciens du marché de Farino. On avait commencé avec Mamie. J'aime bien, je fais des rencontres, voilà. Puis voilà, maintenant savoir faire les clients. Discuter, voilà, partager. Voilà, c'est ce qu'on fait en ce moment dans les marchés.
Ben disons que j'aime bien, c'est l'ambiance, les gens qui viennent de Nouméa, qui viennent découvrir, pour leur faire découvrir autre chose que ce qu'on trouve dans les magasins. Puis c'est des produits locaux. Il faut venir nous voir à Farino parce qu'on a vraiment des produits phares, hein, des produits de la région, faits par des mamies comme moi.
Et le marché reviendra bien sûr le mois prochain et ceux qui suivent avec peut-être quelques nouveautés, car Ghislaine Arly, l'organisatrice du marché, souhaite redynamiser les événements à venir.
Là, on est en train de faire des réunions en ce moment parce qu'on voudrait aussi un peu innover, on voudrait un peu changer. Bon, on ne va pas tout changer, mais je veux dire, on a dit qu'on allait peut-être repenser un peu le marché, faire un peu des choses autrement pour redynamiser après tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on sent qu'il y avait quand même on a flotté un peu quelques mois, là, donc pour qu'on puisse repartir d'un bon pied. Donc, on est en ce moment en pleine réflexion pour faire des choses. Voilà, et puis, je pense que ça ira, j'espère. Je reste très optimiste.
Et pour découvrir peut-être ces nouvelles surprises, rendez-vous tous les deuxièmes dimanches du mois. Le prochain marché se tiendra le 9 février.
Une sortie qui a attiré les randonneurs à la main verte maintenant. Les associations X-Graines et Dimbéa Rivière Vivante ont organisé une journée collecte de graines. Une quinzaine de personnes se sont retrouvées au parc de la Dimbéa, Charlotte.
Et elles ne sont pas reparties les mains vides. Plus d'une dizaine d'espèces de plantes ont été récoltées, sous l'œil bien sûr attentif des bénévoles, car le but de cette sortie pédagogique était de sensibiliser le public à la préservation du maquis minier et à sa restauration. Objectif atteint, Nicolas Rinck était sur place pour partager avec les visiteurs son savoir sur la collecte des graines.
Eh ben, la matinée s'est bien passée. On a eu un peu de monde pour parcourir la branche nord de la Zambéa et puis collecter des graines d'espèces endémiques. Plutôt des gens un peu habitués à la randonnée, mais qui voulaient effectivement rendre la randonnée utile, en tout cas pour aller découvrir les espèces qui nous intéressent. Donc c'est toujours un format sympathique. C'est pas tant d'avoir des quantités extraordinaires de graines, mais c'est surtout voilà de faire connaître un peu notre activité, puis les plants qui nous sont utiles. Et après, on est revenu avec des graines, oui, d'une bonne dizaine d'espèces différentes. On est vraiment dans la période en ce moment de collecte de graines, où dans le maquinier, il y a plein d'espèces en fruits.
Et les graines récoltées sont pour l'instant conservées. À terme, elles serviront à créer des bombes de graines, soit un mélange entre de la terre, des graines et d'autres composants qui servent ensuite à restaurer un espace végétal.
RRB, 17h56.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite. Et tout d'abord, vos rendez-vous sur Radio Rythme Bleu. Notez déjà que la semaine prochaine, nous reprendrons certains de nos rendez-vous d'antenne, Lionel Sabot.
Là, mardi avec le magazine Citoyen et jeudi avec les Jeudis de l'économie. Et notez également qu'à partir de demain, votre rendez-vous, vous avez un avis, reprendra sa forme habituelle. Une première partie, vous le savez, entre 7h05 et 7h25 environ, et une seconde partie entre 7h45 et 8h. Vous avez un avis, c'est du lundi au vendredi au 25-46-46, le 25-46-46. Notez également que demain à 7h30, c'est Hubert Géraud, expert conservation et plaidoyer Nouvelle-Calédonie pour le WWF qui sera notre invité du matin. Nous reviendrons avec lui sur les incendies qui touchent le sud de la Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'année. Et puis demain, toujours, nous poursuivrons notre série de rétrospectives de l'année 2024. Après la rétro d'une année écoulée en Nouvelle-Calédonie, place au sport demain en Calédonie, en métropole et dans le monde. Ce sera à suivre dans nos éditions de la mi-journée et de 17h45.
Voyons à présent ce qui fera l'actualité de la semaine qui débutera demain avec un premier rendez-vous mardi.
Oui, c'est en effet mardi que sera donné le coup d'envoi de la préparation militaire air sur la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein à Tontouta. Une vingtaine de jeunes venus de Calédonie, mais aussi de Wallis et Futuna débuteront cette préparation militaire air. Mardi toujours, Johan Lecourieux, le maire de Nabéa, débutera une tournée dans les centres de vacances de la commune. Vendredi, il entamera une série de visites dans les structures pour personnes âgées de la commune de Nabéa. Mercredi, le conseiller économique, social et environnemental se retrouvera pour une nouvelle séance plénière. À l'ordre du jour, l'examen d'un projet d'avis concernant le fonds autonome de compensation en santé publique. Jeudi, ce sont les élus du Congrès qui se retrouveront pour une nouvelle séance publique. À l'ordre du jour, deux projets de délibération et deux propositions de vœux. La première proposition de délibération vise à modifier le règlement intérieur du Congrès et la seconde portera sur l'habilitation de la commission permanente durant l'intersession de janvier à juin. La première proposition de vœux est relative à la sécurisation des populations et des infrastructures face à l'érosion du littoral. La seconde proposition de vœux est relative à la mise en place d'un séminaire consacré au redressement des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics. Le lendemain, vendredi, les élus du Congrès se retrouveront, mais cette fois-ci à huis clos pour une commission plénière. Ils auditionneront les représentants du monde de l'agriculture sur notamment les risques de l'arrêt de certaines aides sur l'ensemble des filières. Enfin, un rendez-vous politique à noter sur vos agendas. Ce sera samedi, l'Union calédonienne qui tiendra un comité directeur. Ce sera à Moindouf.
Merci Lionel Sabot. Il est 17h, passé de 59 minutes. On va marquer une pause dans ce journal avant de voir ce qui fait l'actualité nationale et dans le monde. Mayotte, de nouveau face à la menace d'un phénomène météo. A tout de suite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance, choisissez les ambulances Saint-Jacques 24h sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et la suite du journal avec vous, Mickaël Juneski.
À l'actualité dans les Outre-mer, Mayotte placée en alerte rouge. L'archipel va devoir affronter la tempête tropicale Dikeledi, moins d'un mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. Le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls, dit surveiller de près la situation.
Je veux faire comprendre à tous nos compatriotes que cette tempête tropicale Dikeledi, puisque c'est son nom, frappe un territoire meurtri. Il y a la peur, une fatigue psychologique. biologique de la population, il y a des infrastructures extrêmement vulnérables, il y a des sols instables, et donc les risques majeurs qui ont été identifiés par les équipes sur place autour du préfet, ce sont des inondations, des coulées de boue possibles, des submersions côtières, et donc il y a une très forte mobilisation, puisque on voit bien ce que cela peut représenter comme retour en arrière, comme mise en cause de ce qui a déjà été engagé depuis plusieurs jours.
Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Des pluies diluviennes et des vents forts sont attendus à Mayotte dans les prochaines heures. Les 320 000 habitants recensés dans le département ont été invités à se mettre à l'abri dans des habitations solides ou bien dans un des 79 centres d'hébergement d'urgence mis en place dans toutes les communes de l'archipel. En métropole, François Bayrou prépare sa rencontre avec les syndicats agricoles une semaine après les manifestations de la coordination rurale. Une mission délicate pour le Premier ministre, alors que le monde agricole est dans une crise profonde depuis plus d'un an maintenant et qu'il ne cache plus sa colère. Alexis Bourdon pour Europe 1.
C'est la colère qui domine. Depuis un an, les agriculteurs enchaînent les manifestations chaque semaine ou presque. Ils menacent de bloquer les grandes villes et de les affamer avec l'espoir de faire réagir le gouvernement. Et même si le monde paysan rêve d'obtenir des avancées concrètes, notamment du côté de la surtransposition des normes, cette réunion à Matignon demain ne devrait rien apporter, selon Lionel Candelon, président de la coordination rurale du Gers.
Je pense qu'on n'aura rien du tout. Là, dans l'immédiat, c'est clair. J'attends plus rien des politiques. Ça fait un an qu'ils nous disent que oui, ça va arriver, des promesses, en veux-tu, en voilà. On n'obtiendra rien ce lundi. De toute façon, c'est même pas sûr que la semaine prochaine, le gouvernement soit encore en place. Donc, le jeu politique aujourd'hui, c'est la petite guéguerre. En fait, ça divise tout le monde, il n'y a rien qui avance.
Pour le moment, aucune nouvelle mobilisation n'est programmée, mais cela pourrait avoir lieu d'ici un mois. Les élections pour élire les présidentes ou les présidents des chambres d'agriculture programmées le 1er février prochain devraient marquer une pause. Mais les agriculteurs préviennent, si d'ici les résultats, rien ne bouge, ils reprendront les manifestations.
Alexis Bourdon pour Europe 1. La rencontre avec les syndicats agricoles à Matignon est prévue demain soir pour nous. François Bayrou qui prononcera la semaine prochaine son discours de politique générale. La question dans tous les esprits, le nouveau Premier ministre tendra-t-il ou non la main à la gauche pour l'élaboration du budget ou encore dans le cadre de la réforme des retraites? Et dans ce contexte, Gérard Larcher, le président du Sénat, s'exprime aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Il ne veut pas revenir sur la réforme des retraites. Il indique ne vouloir ni suspension ni abrogation. Je cite, « Si nous abrogions la réforme des retraites, le coût serait de 3,4 milliards d'euros en 2025 et de près de 16 milliards en 2032 », dit-il. Notez que cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera Benjamin Haddad, le ministre chargé de l'Europe. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. L'actualité dans la région Pacifique à présent et en Australie, les attaques de synagogues et d'habitations appartenant à des Australiens de confession juive se poursuivent à Sydney, où elles sont même devenues quotidiennes. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Tout ce matin, le mur d'enceinte d'une synagogue de Sydney a été couvert de croix gammées, après quoi les individus qui en étaient responsables ont tenté d'incendier le bâtiment. La police du New South Wales a indiqué qu'elle enquête également sur le vandalisme d'une maison, de sa voiture et d'une caravane. Ces incidents ont eu lieu 24 heures après que des slogans antisémites ont été tagués sur une autre synagogue de Sydney. Semblables incidents s'étaient également produits la veille. Le président de la commission anti-diffamation, le docteur Abramovitch, a qualifié ces attaques d'outrages impardonnables et a ajouté que, je cite, « ces croix gammées ne sont pas que des symboles, ce sont des balles qui visent l'âme de la communauté juive. Ces actes sont épouvantables et monstrueux », a quant à lui estimé le Premier ministre du New South Wales, Chris Minns. à Sydney, Jean-Pierre Jean-Jacques, RRB.
L'actualité dans le monde, encore en bref, les incendies s'étendent à Los Angeles, aux États-Unis, et le bilan est grappé à 16 morts. Assiégés par les flammes depuis mardi, la mégapole américaine continue de compter, de faire face à des flammes ravageuses malgré les efforts de milliers de pompiers à pied d'œuvre. Le Palisade Fire s'est étendu au nord-ouest de Los Angeles. Il menace désormais la vallée densément peuplée de San Fernando, mais aussi le musée Getty et ses œuvres d'art inestimables. À 18h, passé de 5 minutes, une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actu sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Et à la une de l'actu sport dans la région du tennis, l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, une première journée. Lionel Sabot très perturbé par la météo.
Oui, alors il y a perturbation et très grosse perturbation. Et là, on est dans la très grosse perturbation puisqu'à l'heure où nous parlons seulement, écoutez bien, 6 matchs sur les 32 qui étaient programmés aujourd'hui ont pu aller à leur terme. Ce sont des orages et des pluies diluviennes qui ont provoqué l'interruption de la plupart des rencontres. Seuls les matchs programmés sur la Rod Laver Arena, sur la Margaret Court Arena et sur la John Cain Arena ont pu se jouer. Et pour cause, ces trois courts ont un toit, donc les joueurs se retrouvent au sec. Entre les gouttes, tout de même, on a vu deux Français sur les courts de Melbourne aujourd'hui. À noter la qualification d'Arthur Fils. Il s'est qualifié pour le deuxième tour en battant en 4-7 le Finlandais Virtanen. Score final 6-3, 6-7, 4-6 et 4-6. Et puis élimination de la Française Paris qui s'est inclinée devant la Croate Vekic. Elle s'est inclinée en 2-7, 6-4, 6-4. C'est tout pour les Français aujourd'hui. Il y en avait toute une pelletée qui était attendue sur les cours de Melbourne. Il faudra attendre demain. Je vous donne d'autres résultats qui sont arrivés cet après-midi. Le Suédois Casper Ruud, qui est tête de série numéro 6 de ce tournoi, s'est imposé en 5-7 sur l'Espagnol Munar. Score final 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 et 6-1. Qualification également du japonais Kei Nishikori qui s'est imposé sur le brésilien Montero. Kei Nishikori qui s'est fait peur. Il a perdu les deux premiers sets avant de remporter les trois suivants. Score final 4-6, 6-7, 7-5, 6-2 et 6-3.
Allez, on passe au football avec la fin demain matin pour nous de la 17e journée du championnat de France de Ligue 1.
Oui, quatre matchs seront à suivre cette nuit et demain matin pour nous. À 1h du matin, Le Havre recevra Lens. À suivre à partir de 3h15, les deux rencontres entre Toulouse et Strasbourg et entre Montpellier et Angers. Cette 17e journée qui s'achèvera au Parc des Princes par la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Ce sera demain matin à 6h45. Rappelons que ce matin, Brest s'est imposé 2-1 sur Lyon, que Nice est allé l'emporter 4-2 sur la pelouse de Reims. La bonne opération du jour pour l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2-1 sur Rennes et qui met un peu la pression sur le Paris Saint-Germain.
Le rugby également avec la suite de la troisième journée de Champions Cup.
Oui, trois clubs français sur les pelouses européennes cette nuit pour nous. La Rochelle qui recevra Leinster. Nous suivrons également le déplacement de Clermont sur la pelouse de Bath et Toulon qui recevra les Harlequins. Rappelons que ce matin, les clubs français ont été reçus 4-4. Bordeaux-Bègles est allé s'imposer largement, très largement, 69-17 sur la pelouse d'Exeter. Dans cette même poule A, Toulouse est allé battre les Sharks en Afrique du Sud, 20-18. Victoire également cette fois-ci dans la poule C de Castres qui s'est imposée 49-10 sur les Blue Bulls. Victoire également dans la poule 3. Dans la poule C, pardon, du Stade français qui s'est imposé 45-35 sur Northampton.
Allez, on termine avec de la voile et Charlie Dalin qui reste en tête du Vendée Globe.
Oui, Charlie Dalin qui fonce vers les Sables d'Olonne, toujours leader à 661 000 de l'arrivée. Il va faire son entrée dans le golfe de Gascogne. C'est-à-dire qu'il va être un tout petit peu au-dessus de la latitude du nord de l'Espagne. Il est attendu au Sable d'Olonne à partir, allez, on va dire, de mardi pour nous. Derrière, Johan Richaume revient fort. mais ça ne suffira a priori pas puisqu'il possède toujours 135 000 de retard sur le leader Charlie Dalin.
On suivra tout ça évidemment ce Vendée Globe 2025. Il est 18h, passé de 10 minutes, c'est l'heure de votre bulletin météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les prévisions météo, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien pas de vigilance particulière tout d'abord pour cette nuit. Sur le nord-est et la pointe nord, les nuages l'emporteront et des averses seront attendues, parfois modérées. Ailleurs, la nuit restera bien étoilée sur les autres régions. Le vent de secteur est mollira. Il soufflera d'abord entre 5 et 10 nœuds, puis il deviendra souvent variable faible en fin de nuit. Les températures minimales seront stables ce soir, en légère hausse, avec 16 à 20 degrés dans les terres et 20 à 25 degrés près des côtes. Demain matin, maintenant sur le nord-est et la pointe nord. Des nuages accompagnés d'averses faibles circuleront sur l'Ifou et Ouvéa. Le ciel sera passagèrement nuageux. Ailleurs, le soleil l'emportera largement. Le vent sera d'abord variable faible, puis les brises s'installeront sur l'ouest et il se renforcera ailleurs entre 5 et 10 nœuds en fin de matinée, généralement de secteur est, Michael.
Merci.